En Côte d'Ivoire, l'exercice militaire de l'AFRICOM a été lancé, mais le manque de présence de pays africains nous a tout de même intrigués. Le programme annuel d'embarquement américain de formation prétendument antiterroriste des forces armées occidentales a débuté dimanche en Côte d'Ivoire dans un contexte régional instable pour le projet de recolonisation de l'Afrique. Ce programme, connu sous le nom de Flintlock, doit permettre aux quelques 400 soldats d'Afrique de l'Ouest d'être mieux formés à la lutte contre des groupes liés notamment à Al-Qaïda et à Daesh. Et évidemment, ce sont des pays qui n'ont jamais réussi à éradiquer le terrorisme dans le monde entier, donc Daesh et Al-Qaïda, qui forment donc d'autres armées pour combattre le terrorisme. Pourtant, le détail gênant, c'est bien que les pays d'Afrique qui sont directement concernés par le terrorisme n'y participent pas. La Guinée, le Mali et le Burkina Faso ne participent donc pas cette année à cette formation, alors que des militaires ont pris donc le pouvoir depuis 2020 dans ces trois pays. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont victimes depuis plusieurs années maintenant d'attaques terroristes faisant des milliers de morts et provoquant des déplacés donc de plus de 2 millions de personnes. Depuis 2012, la France mène des opérations de sécurité dans la région, mais sa présence n'est plus du tout acceptée par les populations africaines et même à travers le monde, qui les considèrent comme une présence d'occupation. La semaine dernière, donc, Paris a été contraint d'annoncer son retrait du Mali et tente de se redéployer dans la région, et ce redéploiement ne serait peut-être pas aussi facile qu'il le pense. Mais en attendant, ce sont les États-Unis qui marquent leur présence en Côte d'Ivoire à travers cet exercice militaire. À notre grande surprise, le Sénégal, donc, qui abritait l'AFRICOM, n'a pas non plus été présent dans cet exercice. En fait, seulement le Cameroun, le Ghana, le Niger, donc seul pays du Sahel encore présent dans ce cercle, et bien sûr la Côte d'Ivoire. Du côté africain et du côté occidental, on a quand même beaucoup plus de pays qui sont présents, comme le Canada, la France, bien sûr, les États-Unis, évidemment, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Autriche et l'Allemagne. Bref, l'Afrique est devenue le terrain d'exercice de l'AFRICOM et de l'OTAN. La lutte contre le terrorisme reste donc secondaire dans ces temps où les États-Unis et l'Europe ne cessent de chercher une guerre contre la Russie. Mais pourrait-on dire que les autres pays d'Afrique n'ont pas voulu participer à ces exercices ? Pourrait-on dire que, par exemple, le Sénégal, qui abritait donc le siège de l'AFRICOM, a tourné le dos aux États-Unis ? Si ce serait le cas, ce serait vraiment extraordinaire, car cela voudrait également dire que les États-Unis ne réussiront probablement pas à prendre la place de la France en Afrique de l'Ouest comme ils le projettent et que la fin du néocolonialisme donc approche. D'un autre côté, vu la vague de coups d'État de ces dernières décennies, qui ont donc le plus souvent été menés par des soldats qui ont été formés aux États-Unis, ce qui fait que beaucoup réfléchissent également à deux fois avant de voir l'utilité d'envoyer des soldats nationaux se laisser former auprès des Américains. Bref, cet exercice présage seulement que l'AFRICOM est maintenant présente en Côte d'Ivoire et que, comme la France se fait éjecter du Mali, ces Occidentaux cherchent de nouveaux terrains pour se redéployer, ce qui présage évidemment de nouvelles déstabilisations en Afrique. Au Mali, la quête de sécurisation du pays continue et les résultats sont toujours considérablement positifs. La commune de Tessit, le cercle d'Assongo dans la région de Gao, a été victime donc jeudi 17 février d'une attaque barbare de la part des ennemis. Une fois informées de la situation, les forces armées maliennes ont très rapidement déployé des hommes sur le terrain afin de sauver des vies. C'est suite à ce ratissage que les FAMA ont neutralisé 57 terroristes et détruit divers matériels. On note également du côté de la vaillante armée, 8 morts, 14 blessés, 5 portés disparus et 2 véhicules détruits. Selon des sources locales, il y a d'abord eu des frappes aériennes visant des positions de groupes terroristes, suivies de la descente des éléments FAMA sur le terrain pour ratisser la zone. La commune de Tessit a été jusque-là une zone d'insécurité grandissante où les groupes terroristes font la pluie et le beau temps. Une vingtaine d'hommes ont été d'ailleurs tués avant-hier dans cette même zone. Cet acte ignoble serait l'œuvre de Daesh et cette région est aussi depuis des années le théâtre de violentes confrontations entre les groupes terroristes rivaux qui se disputent le contrôle des différents villages et hameaux. Au cours de cet acte terroriste survenu le jeudi, rapportent donc ces sources, plus d'une quarantaine de civils ont été tués dans la commune de Tessit par les groupes terroristes. Et ceux qui ont réussi à échapper ont tout perdu et donc sont sur les routes du désespoir. Ces massacres interviennent dans un contexte où les groupes terroristes opérant dans la zone s'affrontent entre eux et s'en prennent donc aux populations civiles innocentes. Déjà engagés sur le terrain, les FAMA doivent s'investir davantage pour venir en aide aux familles déplorées donc, et aux déplacés qui ont été dépouillés de tous leurs biens. Des sources locales proches des soldats maliens évoquent que plus de 80 terroristes ont été tués. Les forces armées maliennes enchaînent les attaques contre les terroristes sans leur laisser aucun répit. En 10 ans, Barkhane a peut-être tué le nombre de terroristes que les FAMA ont tués en une opération ces dernières semaines. Mais Paris n'arrête pas de répéter le même refrain, comme quoi il y a eu plus de 50 soldats morts donc au Mali, des soldats français, mais qui sont morts pour la France. Mais dans une interview sur la chaîne nationale, le Premier ministre Choguel Kokalamaiga a rapporté quelques éléments de réponse. Vous savez, je dois rendre hommage à la mémoire des soldats français et étrangers. Je ne sais pas pourquoi on ne parle que des Français. Il y a beaucoup d'Africains qui sont morts au Mali. Un hommage aussi aux soldats maliens et aux milliers de civils qui ont été tués pendant que nous avions toutes ces forces au Mali. Mais je crois que dans la communication politique des dirigeants français, ils commettent une grosse erreur, a-t-il lancé. Avant de poursuivre, que quand des soldats meurent au Mali, vous écoutez qu'ils sont morts pour la France. Et ils n'ont jamais dit qu'ils sont morts pour le Mali. C'est dans les discours qu'ils le disent quand ils veulent s'attaquer au Mali. Nous pensons qu'ils sont morts pour la France, pour le Mali et pour la paix. Pour Choguel Maïga, la France serait à l'origine de l'expansion du terrorisme sur le territoire malien, avec preuve à l'appui. Quand on applaudissait le gouvernement français en 2013, personne n'avait imaginé que l'engagement qu'ils ont pris d'aider l'État malien à recouvrer l'intégrité de son territoire, qu'ils allaient en être l'obstacle. Cet engagement a été respecté à Kona, à Gao, à Tombouctou et arrivé au nord du Mali, c'est la France qui s'est opposé et a empêché l'État malien de recouvrer l'intégrité de son territoire. C'est connu, c'est documenté, tout le monde le sait, a déclaré le Premier ministre malien. Il poursuit ses révélations en annonçant que nous respectons les soldats français qui sont morts, mais ils ne disent jamais à leur population que c'est en s'opposant au recouvrement de l'intégrité du territoire malien que les autorités françaises ont créé une enclave dans le nord du Mali où les terroristes donc s'y sont organisés pour revenir à la charge à partir de fin 2014, début 2015. Ils ne disent pas aussi ce qui s'est passé à Kidal pour que leurs journalistes soient enlevés. Pourquoi ils ne lèvent pas le secret défense pour éclaircir tous les Français sur les circonstances de la mort de leurs journalistes? Donc, c'est un sujet qui, je pense, ne doit pas jouer sur les sentiments. Réagissant aux nombreuses réactions qui ont surgi à la suite de la volonté de l'État malien de rompre son partenariat avec la France, Choguel Maïga a précisé que les Maliens ne sont pas un peuple ingrat et qu'ils seraient un peuple de mémoire. Nous leur disons de faire attention, à force de toujours vouloir faire des leçons de morale aux autres, on est pris dans son propre piège. Quand la France a été occupée, c'est l'Afrique qui a servi de repli pour reconquérir la souveraineté de la France. Les Américains, ils ont libéré la France, et quand à un moment donné les Français ont estimé qu'ils n'avaient plus besoin d'eux, ils leur ont demandé de partir. Et je pense que les dirigeants français doivent changer de logiciel, de façon de voir l'Afrique. Les Maliens estiment qu'il faut les laisser décider de leur sort et de leur destin. Aujourd'hui, c'est le peuple malien qui peut apprécier la légitimité d'un gouvernement ou non, conclut-il. En Centrafrique, nouvelle tentative d'assassinat du président Touadéra déjouée. Les médias mainstream parlent encore une fois de hasard, mais visiblement la France n'est pas prête à les laisser la Centrafrique tranquille. Voici donc l'info qu'on trouve dans les médias donc français. Pour commencer, les médias veulent banaliser ce genre d'opération et se faire également passer pour des victimes. Donc ils étaient à l'aéroport pour escorter le général. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'au même moment, l'avion du président Touadéra atterrissait, a expliqué l'état-major parisien des armées. Sans raison particulière, ils ont été arrêtés par la gendarmerie centrafricaine alors qu'ils se trouvaient près de l'aéroport et des accusations relatives à une tentative d'attentat ont été portées via les réseaux sociaux, a poursuivi cette source. La MINUSCA se mêle du dossier également, tout simplement parce que ces mercenaires français sont venus en Centrafrique grâce à l'ONU qui leur a fourni donc les papiers nécessaires. Dans un communiqué, la MINUSCA donc a regretté cet incident et condamné vivement donc son instrumentalisation sur les réseaux sociaux dans une tentative de manipulation de l'opinion publique. Et elle rejette catégoriquement les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, conclut la force de maintien de la paix. Au passage, la MINUSCA donne des affirmations sans aucune enquête. Ensuite, les médias dérivent l'info en mettant en avant que la Centrafrique est le pays le plus pauvre du monde et qu'il y a la guerre civile depuis une dizaine d'années et que la MINUSCA a déployé 14 000 soldats sur place. Soit dit en passant, les Centrafricains ne savent toujours pas pourquoi il y a 14 000 soldats de l'ONU sur leur territoire. L'info continue donc en rappelant que fin décembre 2020, une coalition de plusieurs des groupes armés avait lancé une offensive en direction de Bangui pour renverser le président Touadéra à la veille de la présidentielle. Mais bien sûr, ce fut un échec. Les forces armées centrafricaines avec ses alliés ont repoussé ces attaques. Conclusion, les médias prennent encore une fois soigneusement le temps de continuer de dénigrer la Centrafrique, même dans une situation pareille. Une chose est sûre, c'est que pour déjouer plusieurs tentatives d'assassinat du président Touadéra, c'est que le secteur militaire et surtout celui du renseignement a dû évoluer considérablement. C'est ce qui ne se dit pas dans les médias mainstream, évidemment. Les groupes armés, malgré leur union sous l'égide de l'ex-putschiste François Bozizé, homme de l'Élysée, ont été repoussés et c'est pour cela qu'ils sont réduits à des petites attaques contre les populations et que les grands discours comme « on va marcher sur Bangui » Prokoupos, qui soit dit en passant, n'ont jamais été condamnés ni par l'ONU ni par aucun pays d'occidentaux, ne se voient plus. La Centrafrique est donc passée maintenant dans la sphère de la prévention. Déjà en mai 2021, Bangui a annoncé l'arrestation d'un mercenaire français détenteur d'un arsenal de guerre qui planifiait déjà la chute de la Centrafrique. Les autorités centrafricaines ont déjà procédé à son arrestation et encore une fois, les médias français utilisaient le même ton, à savoir c'était une erreur ou des mensonges. Seconde coïncidence, c'était en novembre 2021 où un contingent égyptien de l'ONU s'était aventuré vers la résidence du président Faustin Archange Touadéra où l'un des soldats tentait de prendre des photos. Et encore une fois, l'ONU et les médias annoncent une erreur d'itinéraire. Et maintenant, cette affaire à l'aéroport de Bangui et ses mercenaires français arrêtés. Décidément, les coïncidences, les hasards, les erreurs s'accumulent beaucoup et convergent toutes vers le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Il y a quelques semaines, certaines infos circulaient sur la toile annonçant que des mercenaires français s'aventuraient en Centrafrique en utilisant la couverture de l'ONU, qui évidemment possède le plus haut rang en matière de couverture en Afrique et même au niveau international. D'ailleurs, les Africains les connaissent bien et peu importe le nombre de plaintes qu'ils ont donc envoyées pour violences, vols, viols, même des viols sur des mineurs, il est clair que les soldats de l'ONU sont des intouchables. Et d'ailleurs, les forces armées centrafricaines connaissent bien ce procédé. Et ce n'est pas pour rien que les médias mainstream continuent de faire croire que le pays est toujours en pleine guerre civile et que par ce biais, l'ONU continue de prolonger unilatéralement sa présence en Centrafrique. Et le plan consisterait donc effectivement à assassiner le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et probablement faire porter le chapeau aux dirigeants des groupes armés. Déstabiliser toutes les structures étatiques du pays, faire revenir les groupes armés et replonger la Centrafrique dans le chaos. Évidemment, il est important pour la France et compagnie de pouvoir faire ça assez rapidement, avant en tout cas que le Conseil de l'ONU, toujours sous la pression de la Centrafrique, ne lève l'embargo sur les armes et sécurise définitivement le pays et montre encore une fois au monde entier, comme le Mali est en train de le faire, que la présence militaire française ou même celle de l'ONU ne sert absolument pas à sécuriser un pays, mais au contraire, elle sert donc à le changer en un Libye et rien d'autre. D'ailleurs, les contingents de l'ONU donc, sont bien connus maintenant en Afrique et font l'objet de nombreux contrôles qui font que même les patrons de l'ONU commencent à s'en plaindre dans les médias mainstream. Mais la Centrafrique n'est plus la Centrafrique d'avant où la France et ses alliés peuvent faire ce qu'ils veulent. L'époque du précaré est terminée. La France a été éjectée de la Centrafrique et elle tente encore, comme au Mali en 2012, de rentrer de nouveau par la fenêtre. En Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, qui était lundi devant les sénateurs à Yamoussoukro, a appelé l'ensemble des Ivoiriens, notamment la classe politique, à faire face ensemble contre le terrorisme. Nous sommes tous concernés par ce fléau, a-t-il déclaré après avoir réussi à faire voter par la deuxième chambre du Parlement la loi portant création d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Cette académie va reposer sur trois piliers, à savoir la formation des cadres en renseignement tout genre, un camp d'entraînement des troupes et un institut de recherche et de stratégie. Elle est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. En matière de terrorisme, il n'y a pas de chapelle politique. Il est important que nous puissions nous donner la main pour lutter efficacement contre ce fléau, a-t-il souligné. Les sénateurs ont voté à l'unanimité la loi portant création de l'AILCT, une institution à vocation régionale qui a déjà démarré ses activités. Actuellement, je vous parle, il s'y tient une séance de formation dispensée à plusieurs pays par les forces spéciales américaines, a-t-il révélé. Le sous-sol du Botswana regorge d'importantes richesses en minerais. Cependant, le pays d'Afrique australe est surtout connu pour son secteur diamantifère très prolifique. Premier producteur africain et deuxième sur le plan mondial, tout juste derrière la Russie, la domination qu'exerce ce pays dans la production de diamants n'est plus à présenter. Néanmoins, depuis peu, un métal est en train de se faire une place dans le paysage minier botswanais, c'est le cuivre. Plusieurs compagnies étrangères se mobilisent dans le pays et sa capacité de production devra atteindre 100 000 tonnes d'ici 2023 selon les prévisions actuelles. Est-on en train d'assister aux prémices d'une industrie cuprifère prospère qui pourrait aider l'État dans sa volonté de diversifier l'économie? Au Botswana, l'économie repose principalement sur les diamants. Depuis quelques années déjà, le secteur représente 20% du PIB, 80% des exportations, 38% des recettes budgétaires et 23% dans les recettes douanières. D'après les statistiques officielles publiées fin janvier, les exportations de diamants sont passées de 2,12 milliards de dollars en 2020 à 3,46 milliards de dollars en 2021. Il s'agit d'une hausse en glissement annuel de 64% portée par l'augmentation de 35% de la production de Debswana, la coentreprise entre l'État et le groupe de Beers. Et les campagnes pour découvrir de nouveaux gisements de cuivre s'intensifient depuis quelques années à Kalahari, Copper Belt, jusqu'ici très peu développé et au centre des attentions. On peut citer en exemple la société d'exploration Kavango Ressources qui concentre actuellement ses recherches sur plusieurs zones. Elle dispose de permis d'une durée de validité initiale de 3 ans, extensible à 7 ans maximum et couvrant une superficie de 1294,2 km². Et de son côté, Metal Tiger détient 7 permis d'exploitation hautement prospectifs couvrant 4063 km². Si le secteur des diamants s'est depuis remis de la crise et l'économie botswanaise aussi, avec une croissance économique de 9,7% prévue pour 2021 et 4,3% en 2022, les premiers succès que rencontre le gouvernement concernant le cuivre doivent l'inciter à continuer dans cette voie de diversification. D'abord en s'intéressant à d'autres minéraux comme le charbon, le nickel, l'or, mais aussi aux autres secteurs comme celui des services. Le président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, Kassoum Kambou, est décédé samedi à Paris à l'âge de 66 ans des suites d'une maladie, a annoncé la présidence dans un communiqué. Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a le profond regret d'informer l'opinion du décès ce samedi à Paris, en France, de M. Kassoum Kambou,
président du Conseil constitutionnel des suites d'une maladie, comme l'indique le communiqué. Souffrant depuis plusieurs semaines, Kambou, qui était à la tête de l'institution depuis 2015, était absent à la cérémonie de prestation de serment du lieutenant-colonel Damiba mercredi dernier en tant que président du Burkina Faso suite au coup d'État. La cérémonie avait été présidée par son intérimaire Bourayma Cissé. D'abord hospitalisé dans un premier temps dans une clinique à Ouagadougou, il a été transféré d'urgence vendredi dernier à Paris où il a rendu l'âme samedi, selon les autorités. Kassoum avait succédé à Milogo en mars 2015 à la tête de la juridiction. Il a occupé auparavant les postes de président de la chambre commerciale, de la cour de cassation, de conseiller à la cour de cassation, la cour suprême, cour d'appel de Ouagadougou et membre du conseil supérieur de la magistrature. Kassoum Kambou était titulaire d'une maîtrise en droit, option droit des affaires de l'université du Bénin à Lomé, République togolaise. Il est aussi diplômé de l'École nationale de magistrature de Paris en France. Au Sénégal, dimanche 20 février, des milliers de Sénégalais ont manifesté contre l'homosexualité. Le message est clair, alors que le code pénal punit déjà sévèrement l'homosexualité, considérée comme contre-nature. Des sanctions insuffisantes, selon les manifestants, que l'Assemblée nationale criminalise l'homosexualité au Sénégal, c'est tout simplement ce que l'on demande. S'ils ne le font pas, nous allons les dégager d'ici, amener d'autres députés qui sont aptes à voter cette loi, précise un manifestant. L'appel à la mobilisation a été lancé par 125 associations réunies au sein d'un même collectif. La question LGBT est devenue un levier électoral des traditionalistes qui dénoncent une influence occidentale. « Je ne pourrais terminer sans dire aux Nations Unies que son agenda est voué à l'échec au Sénégal », confie Adama, membre du collectif Ansam Djiko. Et sur 45 pays d'Afrique subsaharienne, 28 disposent d'une législation réprimant l'homosexualité.